encore dit, mais c'est une vraie joie d'être là ce matin pour plusieurs raisons. Bien sûr, celle de découvrir l'Église, de partager la parole de Dieu avec vous, celle de retrouver aussi d'anciens Nîmois qui sont venus grossir les rangs de vos rangs, et nous en sommes très reconnaissants. Et voilà, je voulais simplement commencer en disant ma reconnaissance au Seigneur de pouvoir vivre ces instants avec vous ce matin. J'ai terminé il y a quelque temps déjà une série à Nîmes, une série de prédications sur la vie de David. Et j'ai choisi de partager avec vous ce matin l'avant-dernier message de cette série. Et je vous propose de nous pencher ensemble sur un texte qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22. Dans cette série sur la vie de David, je l'ai parcourue au gré de la narration du texte. Et dans ce deuxième livre de Samuel, nous avons beaucoup de textes narratifs, puisque Samuel est un livre historique. 1 et 2 Samuel sont des livres historiques. Mais il se trouve que ce chapitre 22 est l'exception qui confirme la règle, puisque nous trouvons dans ce presque dernier chapitre de Samuel un psaume. C'est donc de la poésie que nous avons dans ce chapitre. Ce psaume de David, sur les 150 psaumes du psautier, 73 sont signés de David. Ce psaume qui se trouve donc dans 2 Samuel chapitre 22 se retrouve avec quelques variantes dans le psautier au psaume 18. Donc vous pourrez, quand vous aurez le temps cette semaine, comparer si vous le souhaitez, et vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes. Et il est difficile de déterminer quelle est la première édition de ces deux variantes que nous avons. Quelle est celle qui a inspiré ou influencé l'autre? Il n'y a pas de consensus là-dessus, et ce sont des questions techniques sur lesquelles je ne m'attarde pas. Concernant la date de rédaction de ce psaume, là aussi il n'y a pas de consensus. Certains pensent que ce psaume a été rédigé avant l'épisode avec Bathsheba, et puis d'autres le situent là où il se trouve dans ce livre de Samuel, c'est-à-dire vers la fin, tout à la fin de la vie de David. Personnellement, je valoriserai deux éléments pour le situer à la fin de la vie de David. Premièrement, il y a sa position dans ce deuxième livre de Samuel, même si des spécialistes du texte hébreu ont des arguments pour montrer que tout n'est peut-être pas chronologique dans le livre de Samuel. Peu importe, je crois que son positionnement là est une indication forte de cette écriture tardive. Et puis, la deuxième raison de penser que ce texte a été écrit, ce psaume a été écrit à la fin de la vie de David, ce sont les premiers versets, ou le premier verset de ce psaume. Je le lis avec vous. David prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant le jour où le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. L'interprétation naturelle de cette précision ici est de situer le texte là où il est placé, c'est-à-dire après la bataille que David vient de livrer contre les Philistins, que nous avons à la fin du chapitre 21, donc juste dans les versets qui précèdent, et qui est en réalité la dernière bataille que David a livrée dans sa vie. Et des batailles, il y en aura eu beaucoup dans la vie de David. Ce berger, devenu roi, est devenu guerrier. Tant de batailles, tant de sang versé, tant et si bien qu'au moment où David a voulu bâtir un temple pour le Seigneur, il avait cela à cœur, Dieu va refuser à David cet honneur, ce privilège de bâtir un temple pour lui, et la raison nous est donnée parce que ses mains étaient trop pleines de sang, en particulier du sang de toutes les guerres qu'il avait menées. Et cette précision, nous l'avons dans le texte parallèle du premier livre des Chroniques. En effet, David a combattu toute sa vie, et il a combattu toutes sortes d'ennemis. Mais maintenant, les années ont passé, et David n'a plus la force, n'a plus la vigueur d'antan. Il est fatigué, il est usé. Dans les versets qui précèdent, lors de cette dernière bataille contre les Philistins, nous lisons au verset 16 du chapitre 21 que David était épuisé. David était épuisé. Si épuisé qu'un de ses hommes va venir à son secours pendant la bataille et va lui sauver la vie. Et suite à cet épisode qui aurait pu mal finir pour David, ses hommes vont l'obliger à prêter serment afin qu'il n'aille plus en guerre. C'est ce que nous lisons dans les versets 15 à 17 du chapitre 21. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses hommes et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Ishibénob, qui était un descendant de Rapha, avait une lance du poids de 300 sicles, poids du bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla d'abattre David. Abishai, fils de Tseruya, vint au secours de David, et il mit à mort le Philistin. Alors les gens de David lui firent prêter serment, lui disant, « Tu n'iras plus à la guerre avec nous, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » David prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant le jour où le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Dieu a délivré David, et il l'a délivré à de nombreuses reprises pendant toute sa vie. Et David y repense. Il y repense, et de cet acte de mémoire jaillit le psaume que nous avons ici au chapitre 22. Alors ce psaume est quand même suffisamment long, 51 versets, je ne vais pas le lire en entier, nous allons lire des extraits au fur et à mesure. Pour simplement vous donner quelques précisions, on peut découper ce psaume de plusieurs manières. Un découpage qui me paraissait pertinent, c'est de le découper en trois sections, encadré par une introduction et une conclusion. Dans la première section qui va du verset 5 au verset 20, il est question de la délivrance du danger mortel de ses ennemis accordé par Dieu. Voilà une manière de résumer cette première section. Puis dans la deuxième section, qui va du verset 21 au verset 30, nous allons trouver les bases morales de cette délivrance divine. Et puis dans la troisième et dernière section, du verset 31 au verset 46, nous avons le rappel de l'aide que Dieu a accordée à David. Tout ça pour dire que, comme une évidence, l'axe principal de ce psaume est la délivrance. Les délivrances que Dieu a accordées à David tout au long de sa vie. J'aimerais vous lire quelques extraits du psaume qui souligne l'importance de cette thématique dans ce psaume. Les premiers versets tout d'abord. David prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant, le jour où le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle, mon refuge. Toi, mon sauveur, tu me sauves de la violence. Je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis sauvé de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient rempli d'effroi, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Et puis je saute quelques versets au verset 17. D'en haut il tend ma main, Il tend la main, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me détestent et qui sont plus forts que moi. Il se tenait devant moi le jour où la catastrophe s'abattait sur moi, mais le Seigneur était mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre au large. Il m'a délivré, car il a pris plaisir en moi. Oui, Dieu a délivré David tout au long de sa vie. Et David, en faisant mémoire de cela, ne peut que louer Dieu pour sa délivrance. Et c'est d'ailleurs avec la louange que David va conclure ce psaume. Je lis donc les derniers versets, à partir du verset 47. « Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet des peuples et qui me soustrait à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent, c'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, Seigneur. » Je chanterai pour ton nom. Il fait de grandes choses pour le salut de son roi. Il agit avec fidélité envers l'homme qui a reçu son onction, envers David et envers sa descendance pour toujours. Alors, il y avait plusieurs façons pour moi d'aborder ce psaume. Et j'ai choisi de réfléchir autour de cet axe principal et de voir, d'essayer de comprendre la manière dont David va décliner cette délivrance de Dieu, la manière dont il en parle. De quoi parle-t-on quand on parle de la délivrance de Dieu? Comment se manifeste-t-elle? Quelles en sont les composantes? Ce qui est vrai pour David, l'est-il aussi pour nous? Comment transposer cette réalité de l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus, à notre réalité spirituelle, c'est-à-dire après la venue de Jésus? Et il y a quand même quelques différences entre les deux. Voici quelques-unes des questions que je me suis posées et en préparant ce message et auxquelles j'espère apporter quelques éléments de réponse. Et cette approche, donc, m'a amené à découper le message de ce matin en quatre points. Quatre déclinaisons, quatre aspects de cette délivrance que Dieu a accordée à David. Les deux premiers sont plus longs et puis les deux derniers seront plus courts. Et le premier aspect de la délivrance que Dieu donne à David, ou bien que David trouve en Dieu, est ce que j'ai appelé la sécurité. Tout simplement la sécurité. La délivrance de Dieu se traduit entre autres dans nos vies par la sécurité du croyant. De quoi s'agit-il? Je relis les versets 2 et 3. Il dit, « Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle, mon refuge. Toi, mon sauveur, tu me sauves de la violence. » Ce psaume et bien d'autres textes, bien d'autres psaumes, nous aide à comprendre que la délivrance de Dieu pour ses enfants passe entre autres par la sécurité qu'il offre aux croyants, à ses enfants. Dieu était pour David un abri, un refuge, un lieu sûr. Et dans le danger, dans les difficultés, David pouvait se réfugier en Dieu. Trouver refuge en Dieu. Et les métaphores ne manquent pas dans les versets que nous venons de lire. Ce sont toutes des images de solidité, de sécurité. Roc, rocher, forteresse, bouclier, corne, citadelle, refuge. Toutes les images sont explicites, sauf peut-être celle de la corne qui mérite un petit mot d'explication. Forteresse, refuge, on comprend très bien. Corne, on se dit, tiens, ah, c'est l'intrus parmi le groupe, là. Mais pas du tout. En réalité, il s'agit simplement de la corne que l'on utilisait, dans laquelle on soufflait quand l'ennemi était en vue pour prévenir du danger. Le guetteur, voyant l'ennemi arriver, soufflait dans la corne et le peuple, alors, pouvait se réfugier. Et donc, comprise ainsi, la corne trouve tout à fait sa place au milieu de ces images de sécurité. Oui, David trouvait en Dieu la sécurité. Il pouvait se réfugier en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est quand même un peu du patois de Canaan, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle sécurité parle-t-on ? Est-ce que se réfugier en Dieu ne revient pas à fuir ses responsabilités, à fuir ses problèmes ? Est-ce que la religion ne serait pas une sorte d'opium du peuple, comme certains l'ont dit et comme certains le disent encore ? Une sorte d'échappatoire. J'ai des problèmes, je me réfugie en Dieu et je fais abstraction du réel. Alors ces questions sont légitimes. Il faut se les poser. Il se peut qu'on nous les pose. Qu'allons-nous répondre ? Il me semble qu'il y a plusieurs parties à la réponse à apporter. Tout d'abord, celle qui concerne Dieu. Un Dieu refuge, qu'est-ce que c'est ? Quand je dis que je me réfugie en Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Un Dieu refuge, c'est premièrement un Dieu qui est toujours là, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le psalmiste dira au psaume 46 que c'est un refuge qui se trouve toujours dans la détresse. Même nos amis les plus chers, ceux qui comptent le plus pour nous, ne sont pas toujours disponibles. Il leur arrive de dormir. Il leur arrive de couper leur portable. Il leur arrive de partir en vacances. Il arrive qu'ils soient occupés à autre chose. Ils sont absents, ils sont au loin. Nous pourrions prolonger cette liste. Ils ne sont pas toujours disponibles. Dieu, lui, est toujours là. Je peux toujours compter sur lui. Dans un autre psaume, nous avons cette belle parole, « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Un Dieu refuge, qu'est-ce que c'est ? C'est cela, mais c'est aussi un Dieu qui ne change pas. C'est une chose de savoir que je peux toujours trouver Dieu. C'en est une autre de savoir qu'il est toujours favorablement disposé à mon égard. En venant à lui, je n'ai jamais à me demander s'il n'a pas changé d'avis me concernant depuis la dernière fois. Dieu est immuable. Il ne change pas dans sa personne et il ne change pas dans ses voies. Il est stable, fiable, constant, fidèle à ses engagements, à ses promesses pour moi. Je peux toujours compter sur lui, toujours m'appuyer sur lui, comme sur un rocher qui défie, qui traverse les siècles. Dans cette même pensée, le prophète Ésaïe écrira bien des siècles plus tard, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Le rocher qui traverse les siècles. Un Dieu refuge, qu'est-ce que c'est ? C'est tout cela, et bien plus encore. Et parce que Dieu est tout cela, je trouve en lui la sécurité. Alors, il faut encore avancer un petit peu et essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Cela veut dire que Dieu m'offre une protection. Il faut que je l'explique. Pour David, cette protection était souvent physique, matérielle. Dieu l'a souvent délivré physiquement de ses ennemis. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans la réalité de l'Ancien Testament et que nous ne pouvons pas juste faire un copier-coller, nous ne pouvons pas juste transposer ce que David a vécu à notre propre réalité spirituelle. Entre nous et David, il s'est passé quelque chose de fondamental qui a quand même changé beaucoup de choses. Il y a eu la venue du Seigneur Jésus. Alors la question qui s'impose ici est la suivante. Est-ce que Dieu nous délivre aussi physiquement ? Et je ne peux pas rentrer très en avant dans ce sujet, mais nous pouvons répondre qu'il le peut. Ça, c'est une première réponse. Nous pouvons aussi répondre qu'il le fait parfois. Dieu intervient parfois concrètement, physiquement dans nos vies, matériellement. Mais nous devons aussi répondre qu'il ne le fait pas toujours, qu'il ne le fait pas systématiquement. Ses enfants aussi tombent malades. Ses enfants aussi souffrent dans la vie et vivent des choses difficiles, parfois tragiques. Il y a une réalité de l'Église persécutée sur cette terre où nos frères et sœurs en Christ sont malmenés, emprisonnés, battus et parfois mis à mort pour leur foi en Jésus-Christ. Il y a des choses innommables qui sont parfois faites à des enfants de Dieu. Ces enfants aussi doivent parfois vivre avec le handicap. Ces enfants aussi sont confrontés au mal, à l'injustice, à la violence. Et ces enfants aussi passent un jour par la vallée de l'ombre de la mort. Mais alors me direz-vous, peut-être, quelle est la différence avec les non-chrétiens ? Y a-t-il une différence finalement ? À quoi bon être chrétien ? Si on vit exactement toutes ces mêmes choses. J'aimerais répondre ici que la différence n'est pas dans la réalité que nous vivons. Être chrétien, ce n'est pas vivre dans un autre monde. Être chrétien, ce n'est pas être immunisé contre tout ce qui fait mal dans ce monde. Être chrétien, ce n'est pas avoir une espèce d'assurance tout risque qui nous met à l'abri de tous les pépins de la vie. Non. Être chrétien, c'est vivre comme le non-chrétien dans un monde déchu, dans un monde qui a été profondément marqué par le péché et par ses conséquences. Être chrétien, c'est être marqué dans son corps, dans son humanité, comme le non-chrétien, par le péché et par les conséquences du péché. Être chrétien, c'est être solidaire dans son humanité du reste des hommes, solidaire des limites et des effets du monde et de l'humanité marquée par le péché. Mais alors, quelle est la différence, me direz-vous ? Peut-être encore. Y a-t-il une différence ? Et là, je réponds avec force et conviction, oui, il y a une différence. Mais elle n'est pas dans la réalité que nous vivons. Elle se trouve dans le Dieu que nous avons, dans le Dieu que nous servons et que nous adorons. Elle se trouve dans la personne de Dieu qui est devenu notre Père par Jésus-Christ. Dieu, par Jésus, n'a jamais promis d'épargner aux siens les épreuves et la souffrance. Vous pouvez relire votre Bible, du début à la fin, vous ne trouverez rien qui va dans ce sens. Par contre, Dieu a promis sa présence. Il a promis d'être avec les siens tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a promis sa paix même au milieu de la tempête, sa paix qui surpasse toute intelligence, qui est offerte à celui qui se confie en lui. Il a promis de donner du repos à celui qui est fatigué, chargé, découragé, à celui qui vient à lui pour trouver du repos. Il a promis de sécher les larmes et de consoler celui qui est affligé. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui, il y a une différence. Et quelle différence ? C'est la différence de pouvoir vivre notre humanité avec toutes ses limites, avec toutes ses épreuves, mais avec le Seigneur, en trouvant refuge en lui, en comptant sur ses promesses pour aujourd'hui et pour l'éternité. Quel privilège ! Quel privilège d'être parfois délivré physiquement. Il se peut que Dieu nous accorde la guérison, la délivrance. Ça arrive. Gloire à Dieu. Quel privilège quand Dieu permet l'épreuve de pouvoir la traverser avec lui, main dans la main, de pouvoir nous tenir sur le rocher des siècles, ce rocher inébranlable. C'est ça la sécurité du croyant. C'est ça, c'est le repos du cœur. C'est la paix du cœur. C'est la paix de Dieu en moi parce que je suis en paix avec Dieu par le Christ. Parce que je sais que mes péchés sont pardonnés. Parce que je sais que Dieu a enlevé la culpabilité de mon péché. C'est ce savoir dans les mains de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ça, la sécurité du croyant. Et ça, ça fait partie, c'est une partie de la délivrance que Dieu nous accorde. Dieu est-il mon refuge? Dieu est-il votre refuge? Votre refuge au jour des grandes eaux qui débordent. On sait tous ce que sont des grandes eaux qui débordent et qui emmènent tout sur leur passage. Dieu est-il mon refuge quand je suis secoué, ballotté par la vie, quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, quand je n'ai même plus les ressources peut-être pour réfléchir à ce qui m'arrive? Il l'a été pour David et il l'a été pour une myriade de croyants depuis. Et il veut l'être pour chacun de nous aujourd'hui et chaque jour de notre vie. À l'heure de l'épreuve, quand l'orage gronde, quand l'orage fait rage, abritons-nous en Dieu. Il est un secours qui se trouve toujours dans la détresse. À l'heure de la tentation, quand Satan rôde, cherchons refuge en Dieu, notre forteresse, notre bouclier. À l'heure de la tristesse, du découragement, même à l'heure de la joie, mettons notre confiance en Dieu et cherchons en lui notre abri. Et puis finalement, à l'heure de la mort, quand il nous faudra traverser cette sombre vallée, faisons-le sur ce rocher inébranlable, ce rocher, ce roc séculaire. C'était vraiment le plus grand point. Je vais développer les autres plus rapidement. Le deuxième aspect de la délivrance que Dieu donne à David, ou bien que David trouve en Dieu, est ce que j'ai appelé son écoute. Alors vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a rien de très extravagant dans tout ce que je suis en train de décliner, mais c'est ce que David dit dans notre texte. Et la délivrance de Dieu dont il parle ne se manifeste pas par des éclairs, des tonnerres et toutes sortes de miracles. On est dans des choses très, très concrètes, très terre à terre. Et le deuxième aspect de cette délivrance, c'est l'écoute de Dieu. Je lis au verset 7. Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'invoque mon Dieu. De son temple, il m'entend. Mes appels au secours parviennent à ses oreilles. Dire que Dieu nous écoute, c'est le genre de discours auquel on s'attend. Auquel on s'attend dans une église. Mais c'est aussi une sorte de patois de Canaan. Que disons-nous vraiment quand nous avons dit cela? Dieu nous écoute-t-il toujours? Qu'en est-il quand je me sens abandonné de Dieu? Qu'en est-il quand j'ai le sentiment que Dieu n'entend pas? Que Dieu n'entend plus? Ou alors que Dieu est fatigué de m'entendre, parce que ça fait des années peut-être. David savait que Dieu écoutait ses appels, ses prières. Pourquoi? Et je crois que ici, les choses s'expliquent et il faut les expliquer, parce que tout est question de révélation d'un côté et de foi de l'autre. Je m'explique. Si le croyant peut affirmer que Dieu l'écoute et que Dieu l'écoute toujours, ce n'est pas parce que quelqu'un, un beau matin, s'est réveillé avec cette belle idée et s'est dit « Ah, ça serait bien de croire que Dieu nous écoute toujours. Allez, on va le dire, on va le croire. » Ça serait pas très solide, hein? Ça serait plutôt bancal. Si le croyant peut affirmer que Dieu l'écoute et que Dieu l'écoute toujours, c'est parce que Dieu s'est révélé ainsi. Parce que Dieu s'est révélé à nous comme celui qui sait toujours toutes choses, en tout instant. Il est celui dont la connaissance est parfaite, dira Job, chapitre 37. Il est celui qui voit le cœur, 1 Samuel 16. Il est celui qui sonde les cœurs et qui discerne toute forme de pensée. 1 Chronique 28. Il est celui qui m'examine à fond et me connaît, qui sait quand je m'assois, quand je me lève, qui comprend de loin ma pensée, qui sait quand je marche, quand je me couche, qui pénètre toutes mes voies, celui qui connaît entièrement mes paroles avant même qu'elles ne soient sur ma langue. Vous avez reconnu le psaume 139. Oui, comme le dira l'apôtre Jean dans sa première épître, il est celui qui sait tout. 1 Jean 3, 20. Et parce que Dieu s'est révélé comme le Dieu omniscient, celui qui a toute la science, celui qui a toute la connaissance de toute chose, je peux par la foi saisir et croire que Dieu m'entend toujours. Et David l'avait compris. Quand il dit « Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'invoque mon Dieu de son temple, il m'entend, mes appels au secours parviennent à ses oreilles. » David l'avait bien compris et il va le répéter de nombreuses fois dans ses autres psaumes. Psaume 4, « Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. » Psaume 5, « Seigneur, le matin, tu m'entends. » Psaume 6, écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes pleurs. Psaume 34, quand un malheureux crie, le Seigneur entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Et nous pourrions multiplier ainsi les psaumes de David, où il parle de cette écoute de Dieu. Dieu nous entend, et il nous entend toujours. Et ça, c'est un privilège immense. Et c'est un privilège immense parce que l'écoute de Dieu est toujours une écoute de qualité. Nous avons tous certainement déjà fait l'expérience de décrocher d'une conversation. Je pense que ça nous arrive à tous. Nous sommes physiquement là, mais nos pensées sont allées un petit peu plus loin. Peut-être que vous avez un peu décroché avec la prédication qui commence un peu à durer, peut-être. Hein? Vous êtes là, mais vos pensées vagabondent un petit peu. Ça, c'est des choses qui existent et qui arrivent. Nous avons sans doute tous aussi déjà été dans la situation d'être celui qui parle et puis de constater que celui qui est en face de nous est là physiquement, mais il n'est plus tout à fait avec nous. Ses pensées sont ailleurs. Parfois c'est intentionnel, et puis parfois ça ne l'est pas parce que l'autre a peut-être trop de soucis dans sa propre vie pour encore écouter les miens, ça peut arriver. L'autre n'est peut-être pas intéressé par ce que j'ai à dire, enfin on peut trouver toutes sortes de raisons. Peu importe, si vous avez été dans cette situation, vous aviez vraiment quelque chose d'important à dire, et puis l'autre finalement n'y prête pas très attention, ça fait mal, c'est blessant. Hein, ça nous bouscule parce que nous aimerions que l'autre entende ce qui est important pour nous. Et nous savons tous qu'une bonne écoute, c'est quelque chose de difficile. Ça demande l'exclusivité, je suis là et pas ailleurs, je me concentre, je me donne entièrement, je m'engage à écouter l'autre personne, je dois m'impliquer, je dois impliquer tout mon cœur, ma compassion et tout ce qui me compose. Et cette écoute-là de qualité, chers frères et sœurs, c'est toujours l'écoute que Dieu a pour chacun de nous. Son écoute est toujours parfaite. Mais alors, qu'en est-il de mon ressenti? Qu'en est-il des moments où j'ai l'impression, le sentiment que Dieu n'est pas là? Que Dieu n'écoute pas? Que Dieu ne se soucie pas de moi? Ou ne se soucie plus de moi. Ce que je dois me rappeler à ce moment-là, c'est que ce qui compte avant tout, ce n'est pas ce que je ressens, mais ce que je sais être vrai de Dieu. C'est dans ces moments-là, dans ces moments de doute, que je dois mettre ma foi en œuvre et me rappeler que ce que je sais de Dieu, me rappeler ce que j'ai appris de lui, me rappeler la parole, sa parole, ses promesses, me rappeler qui il est. C'est dans ces moments-là que je dois marcher par la foi et non par la vue. Résister à la tentation de marcher par la vue, c'est-à-dire dans ce cas précis, par mon ressenti, par mes sentiments, par mes émotions. Alors oui, parfois Dieu nous accorde la grâce de vivre des moments forts, des moments intenses avec lui. Ce sont des moments privilégiés de communion. Et nous voudrions d'une certaine manière qu'il en soit toujours ainsi, qu'on soit toujours au top de ce ressenti avec le Seigneur. Nous voudrions toujours ressentir des choses fortes. Et parfois, certains se lancent dans cette recherche effrénée de ces émotions à tout prix. Et ça conduit, malheureusement, dans le monde chrétien, à toutes sortes d'excès. Si Dieu nous accorde sa grâce de ressentir parfois sa présence, nous devons nous souvenir que la marche chrétienne est avant toute chose une marche par la foi et non par la vue. Il peut arriver que j'ai le sentiment que Dieu n'entend plus, n'entend pas mes prières, mes appels au secours. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que je ressens. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai de Dieu. Et je dois alors me souvenir de qui est Dieu et mettre ma foi en œuvre. C'est la raison pour laquelle je disais c'est une question de révélation, de ce que Dieu nous a révélé de lui. Il est celui qui sait toujours toutes choses, qui entend toujours nos prières, et puis ma foi qui doit être mise en œuvre dans les moments de doute pour marcher par la foi et saisir ce que Dieu est vraiment et non pas ce que je ressens dans mon doute. Oui, il est le Dieu qui sait tout et qui m'entend toujours. Le Dieu qui connaît mes pensées, le Dieu qui connaît mes paroles, mes prières, avant même qu'elles ne soient sur ma langue. Je passe au troisième point, et là j'enclenche vraiment la vitesse supérieure. C'est le troisième aspect de la délivrance que Dieu accorde à David, c'est son guidage. C'est ce que j'ai appelé son guidage ou sa direction, sa conduite. La délivrance de Dieu se traduit par la sécurité, se traduit par l'écoute et se traduit par le guidage du croyant. Je lis le verset 29. « C'est toi qui es ma lampe, Seigneur. Le Seigneur éclaire mes ténèbres. » Que dit David ? « Comment le Seigneur guide-t-il ses enfants ?» David, ici, dit que le Seigneur est la lampe qui éclaire ses ténèbres. Il est la lampe qui l'éclaire dans les difficultés, dans l'épreuve. La lampe qui éclaire sa route, son chemin. Et comment Dieu fait-il cela ? Il le fait en grande partie par sa parole. Sa parole qui est une lumière pour ses enfants. Là encore, rien de très extraordinaire ou miraculeux, n'est-ce pas ? Nous connaissons ce verset du psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et un peu plus loin dans ce même psaume 119, il est dit « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence aux naïfs. » C'est par sa parole que Dieu éclaire nos ténèbres. Et c'est pour ça que nous mettons tellement l'accent sur la parole de Dieu dans nos cultes, dans nos vies d'église. Sa parole qui dissipe nos ténèbres, sa parole qui est la vérité, qui démasque l'erreur et qui nous montre le chemin à suivre. Alors oui, une des composantes de la délivrance de Dieu que Dieu offre à son enfant, c'est la lumière de sa parole. C'est par elle que nous trouvons le chemin, et le chemin dans l'épreuve. C'est par elle que nous voyons les obstacles, les dangers du chemin, les trous, les ornières, les fausses pistes. C'est par elle que nous ne trébuchons pas, que nous tenons debout, que nous tenons ferme, et que nous ne chutons pas. C'est par elle que nous pouvons avancer avec confiance, car c'est Dieu qui nous guide. Car même si nous ne voyons pas tout le chemin, nous savons que Dieu le connaît entièrement. C'est toi qui es ma lampe, Seigneur. Le Seigneur éclaire mes ténèbres. La délivrance que Dieu a accordée à David passait par l'écoute de sa parole et par la mise en pratique de cette parole. Alors et nous, que faisons-nous de la parole de Dieu? L'écoutons-nous? La méditons-nous? Nous cantonnons-nous exclusivement à la parole que nous recevons le dimanche matin? David a connu la délivrance de Dieu en partie parce qu'il aimait la parole de Dieu. Il aimait les préceptes, les commandements de Dieu. Et je pourrais alors, mais je vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps, je pourrais lire de nombreux versets dans ce psaume 119, par exemple, où David dit son amour pour la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est le psaume le plus long, mais si vous le relisez, vous verrez à combien de fois David dit qu'il aime la parole, les commandements, les préceptes, j'aime ta loi, etc., etc. Et je crois que nous touchons ici au cœur de la vie chrétienne. Est-ce que j'aime la parole de Dieu? Est-ce que j'aime la lire? Est-ce que j'aime la méditer? Est-ce que j'aime en vivre jour après jour et l'appliquer dans ma vie? Et à ces questions, nous devons certainement tous reconnaître que nous avons des progrès à faire. Et c'est très bien ainsi. Faisons des progrès. Ne nous contentons pas de ce constat ce matin, mais demandons au Seigneur de mettre plus d'amour pour sa parole dans notre cœur, afin que, comme le psalmiste, nous puissions dire, « C'est toi qui es ma lampe, Seigneur. Le Seigneur éclaire mes ténèbres. » Et il le fait par sa parole. Et je termine rapidement sans développer le quatrième aspect de la délivrance que Dieu donna à David et que j'ai intitulé « L'équipement ». La délivrance de Dieu se traduit par l'équipement du croyant. Je relis quelques versets, commencer au verset 34. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait tenir sur les hauteurs. Il enseigne à ma main la guerre. Mes bras tendent un arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta réponse me grandit. Tu me fais marcher au large et je ne chancelle pas sur mes chevilles. Tu me ceins de vaillance pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. » Dieu avait équipé David pour la victoire. Et c'est un aspect essentiel de la délivrance que Dieu accorde aux croyants. Et comme pour David, Dieu nous équipe pour que nous puissions faire face aux exigences du chemin. Il nous équipe pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Alors pour David, c'était bien évidemment très physique, très militaire, très matériel. Pour nous, c'est essentiellement par son esprit, par ses dons, par les fruits de l'esprit qui grandissent en nous, par sa parole que Dieu nous forme et nous équipe à son service et à sa suite. Alors oui, la délivrance que Dieu nous accorde se traduit aussi en partie par les ressources qu'il nous donne pour avancer sur le chemin de la foi. Ne nous privons pas de venir à lui pour les recevoir. Et ainsi nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si nous pouvons tout, c'est parce que Dieu nous fortifie, parce que Dieu nous équipe pour avancer sur le chemin de la foi. La sécurité, l'écoute, le guidage et l'équipement. Puissions-nous chacun, fort de tout ce que nous venons d'entendre, mieux expérimenter et mieux vivre la délivrance de Dieu jour après jour. Et c'est là que nous voyons que cette délivrance, elle se vit au quotidien, dans nos vies, par ces choses que je viens de décliner. Nous aurions pu en décliner quelques autres encore dans ce psaume. Puisse Dieu être pour chacun de nous aujourd'hui et demain notre roc, notre forteresse, notre libérateur, notre Dieu rocher en qui nous trouvons un abri, notre bouclier, notre corne qui nous sauve, notre citadelle et notre refuge. Amen. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.